Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Arlette Farge, qui, quand Marianne Alphand a suggéré son nom dans notre série d'invitations, j'étais particulièrement enthousiaste parce que je crois que son livre Le goût de l'archive, c'est le livre que j'ai le plus offert autour de moi à mes amis. À chaque fois que je cherchais dans la bibliothèque, il n'y était plus. Donc voilà. Arlette Farge a choisi, et là pour moi ce n'était pas une surprise, mais elle va s'expliquer là-dessus, d'évoquer Pascal Quignard. Donc c'est un petit peu une exception dans notre programme, puisque d'habitude les écrivains invités évoquent plutôt des écrivains disparus. Donc là elle va s'expliquer là-dessus, j'espère. Et puis à l'issue de la conférence, vous verrez un film qui a été réalisé par Jacques Malaterre et qui dure 26 minutes, qui a été réalisé en 2001 et qui montre donc Pascal Quignard dans un voyage au Japon. Voilà, donc bonne soirée.
Merci d'être là. Oui, je commence par m'excuser d'avoir brisé le protocole de cette session. Quand Marianne Alphand m'a demandé de qui je voulais parler, je crois que j'ai à peine compris qu'il fallait que ce soit quelqu'un de mort, et j'ai dit Pascal Quignard, et quand il m'a dit faut qu'il soit mort, ben j'ai dit ben il est vivant, et elle a eu la gentille, et c'est vrai que après je me suis interrogée, j'avais pas d'autre nom en tête, et pourtant j'aime beaucoup d'écrivains qui sont morts, bien sûr, mais du coup ça fait drôle cette séparation vivant-mort, enfin c'est, pour moi c'est compliqué. Donc en dehors de lui, j'avais pas de préférence, j'aurais pu dire Julien Gracq, j'aurais pu dire Verlaine, j'aurais pu dire Baudelaire, j'aurais pu dire Racine, Diderot, on aurait pu m'attendre sur Voltaire ou Diderot, ben voilà, je n'ai pu dire que Pascal Quignard. Donc je vais m'en expliquer très, très rapidement. D'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas lu tous ses livres. Il en a écrit 50. Et je sais ne pas les avoir lus tous les 50. Et en plus, je suis historienne du XVIIIe siècle, et en fait, justement, c'est mon siècle de prédilection, et très, très étrangement, finalement, ce n'est pas le sien, lui qui aime tant l'Antiquité, le monde baroque et janséniste, le XVIIe siècle, et le monde chinois. Donc, effectivement, tout ça présente des décalages. Mais par ailleurs, et c'est tout à fait autre chose, il se trouve que nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en 1994, ça remonte donc déjà, lorsque je commençais à travailler sur un livre qui s'est appelé depuis « Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle ». C'était un livre que je voulais fabriquer avec des morceaux d'archives, fabriquer une sorte de tableau kaléidoscopique en fait, avec des morceaux d'archives, bon, pour transmettre justement ce qu'était le cours ordinaire des choses dans Paris au XVIIIe siècle. Et en fait, il s'est trouvé que nous en avions beaucoup discuté et qu'il aimait lire certaines des archives que j'avais découvertes, certains des textes que j'avais découverts en archives. Je travaille sur les archives de police essentiellement du XVIIIe siècle, donc sur les procès-verbaux et les interrogatoires. Et il aimait bien, quand on se rencontrait, que je lui raconte, et il m'avait demandé d'ailleurs de lui en recopier certains qu'il touchait plus particulièrement. Et puis ça en est resté là, d'ailleurs je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, peut-être depuis d'ici là, et jusqu'à la sortie récente de son livre, La barque silencieuse, ce livre si magnifique où j'eus l'étonnement et le plaisir de voir son texte commencer par une histoire de coche d'eau que j'ai bien reconnue, puisque c'était un texte que je lui avais transmis à cette époque-là et qui lui fait démarrer ce livre. Donc, mais en fait, ce n'est pas parce que je l'ai rencontré, ça serait trop simple, que j'ai choisi cet écrivain. J'ai songé à lui tout de suite, comme ça, parce que son œuvre, qui paraît très régulièrement, par éclat et sous de multiples formes, m'a toujours accompagnée. Elle m'a accompagnée de deux façons, autant dans mon rêve littéraire, je crois, que dans ma passion historienne. Et curieusement, lire Pascal Quignard, c'était quelque chose qui, pour moi, nourrissait mon travail. Donc, en fait, je vais essayer de m'en expliquer ici. C'est autour de quelques motifs ou thèmes que par lui travaillé et mis en langue surtout, que je vais essayer de m'expliquer sur ce compagnonnage silencieux, puisque nous ne nous voyons pas, en tâchant, bien sûr, de parler plus de lui que de moi. À vrai dire, je crois qu'une vie intellectuelle, en tout cas pour moi, celle qui est faite d'âme et d'esprit, parce que le mot intellectuel, j'aime pas beaucoup, mais une vie intellectuelle, ce qui est faite de l'âme et de l'esprit, bon, et qui cherche, au fond, qu'est-ce qu'on cherche quand on est intellectuel, qui cherche la délivrance, en somme, eh bien, une vie intellectuelle, elle ne se compartimente pas, et mon goût de l'histoire et des archives de police et des manuscrits se mêle, sans même que j'y prenne garde, à mon désir des mots, de la langue, de la transmission des aventures humaines du passé. Et en fait, le rêve littéraire m'accompagne, comme m'accompagne d'ailleurs de la même façon le rêve cinématographique. Alors, je voudrais dire, voilà, démarrer par cette chose toute simple qu'on dit, dont on parle beaucoup quand on parle de Pascal Quignard, la cassure, la discontinuité, le fragment, la fragmentation, la brisure aussi, sont une des manières littéraires par laquelle Pascal Quignard semble s'échapper du réel, alors qu'en fait, il le rejoint tout entier. Et le lire, en être transformé, parce que quand on lit Pascal Quignard, on ne peut être que transformé, ou alors, selon l'expression vraiment très belle de Dominique Rabaté, qui a publié un livre sur lui, être sidéré. C'est vrai que c'est un écrivain qui, par ses textes, donne des effets de sidération. Il y a une sidération à le lire. Et donc, le lire et en être transformé, c'est voyager intensément, justement, sur quelque chose qui me parle beaucoup, c'est-à-dire des trajets qui n'ont aucune linéarité, qui sont toujours extraordinairement composés, mais toujours par fragments, dans la discontinuité. Et finalement, feuilleter, si on feuillette un de ses livres, parce que feuilleter un livre, c'est voir. Oui, je crois qu'un livre aussi, ça se voit. Et quand on feuillette, on voit bien des paragraphes se succéder les uns aux autres. Et puis aussi, on voit des blancs entre les paragraphes, comme des silences. Et ça déjà, quand on ouvre le livre et qu'on le voit, il y a quelque chose que je trouve très intriguant et à la fois fort, qui est cette espèce de martèlement entre l'écrit et le blanc de la feuille, qui est pour moi comme un silence. Silence, on peut l'entendre comme en musique, ou un silence en soi, de soi, pour soi, avec soi. Et le lecteur, en fait, il est conduit dans une espèce de trajectoire qui est faite de périodisations très, très différentes, de minuscules anecdotes par moments, de pensées vertigineuses, sidérantes, poétiques, d'auteurs anciens ou plus proches, ou de lui-même, venant de Pascal Quignard lui-même. Mais cela, bien que ce soit fragmenté, avec une espèce d'évidence flagrante, comparable à celle, je crois, en effet, des compositeurs de musique. Il n'est pas un hasard, sans doute, que Pascal Quignard soit si musicien. Et cette trajectoire de la fragmentation, ce n'est pas une ligne fracturale, mais c'est le moyen de rejoindre une pensée, la sienne, qui est mue tout entière par la quête absolue d'un vrai qui sera toujours absent. Un vrai qui sera toujours absent, mais qu'il cherche toujours, et irrigué par une mélancolie, une mélancolie aux eaux très sombres, mais toujours remplie de lucioles. Alors très étrangement, cette fragmentation là, dont je parle et sur laquelle il a souvent été glosé par ses commentateurs, elle me rapproche de lui pour des raisons qui n'ont rien de littéraire, vous allez voir. Parce que, d'une part, ça me rejoint dans ma propre temporalité, ça c'est personnel, est-ce que nous ne vivons pas tous par à-coups et dans le morcellement de nos affects? En tout cas, moi c'est mon cas. D'autre part, dans la manière où j'essaie tout le temps, par passion, de rejoindre le XVIIIe siècle à travers des bribes de paroles, des fragments d'archives, des histoires de rien, dérisoires ou tragiques, ou les deux à la fois, au ras des drames, entre poésie et banalité totale. En effet, là, ça me permet, en lisant Pascal Quignard et en déchiffrant ces paroles dites du XVIIIe siècle, ces récits murmurés que je trouve dans les archives de police, dans les interrogatoires, ces voix essoufflées qui sont maladroitement retranscrites par des greffiers, je ressens, comme le disait Michel Foucault à propos de ces archives, une véritable vibration physique que je dois ensuite mettre en récit d'histoire. mais de ce discontinu de parole et de temps, d'individus singuliers, de mouvements collectifs, je ne veux rien abandonner, rien lisser. Je ne veux pas faire non plus de récits linéaires. Seulement les inclure ensuite dans un montage raisonné qui serait évidemment le lieu du récit historique, car quand même le récit historique doit prouver, donc il doit donner ses raisons. Mais je ne veux rien abandonner des aspérités du réel rencontré et je veux les inclure dans un montage qui leur donne sens et vie. Dès lors, il faut écrire en fait une forme d'histoire qui donne accès à la fois au sens et aux irrationalités multiples des vies et des événements rencontrés, à leurs énonciations enchevêtrées ou balbutiées, naïves ou très construites. En fait, faire éclater, vous l'avez compris, tout le positivisme de l'histoire qui revient à grands pas. En cette matière, Pascale Quignard déploie sous mes yeux de lectrice une richesse inouïe. Sa nécessité, parce que pour lui, les questions de nécessité, d'urgence, de vie, c'est vital. Sa nécessité de la fragmentation qui reste fluide et qui dirige, telle une barque silencieuse, elle va vers son but ultime. Et à la fin du livre, une fois qu'on a terminé un livre, je parle de la barque silencieuse, mais il y en a tant d'autres, La vie secrète ou tant d'autres faits sur ces modèles-là. Et moi, ça me permet à l'historienne, non pas de faire comme lui, d'ailleurs, qui pourrait faire comme lui, mais de m'approprier sa conviction que le fragment, c'est la mesure de l'être. Certes, il lui arrive de tenter de s'en expliquer, Pascale Quignard, ou bien même de s'en expliquer très clairement de façon autobiographique. Je pense à deux livres, Le nom au bout de la langue ou La leçon de musique, où il saisit son enfance, parfois muette, qu'il raconte, et aussi le souvenir de sa mère qui cherchait ses mots au cours des déjeuners du dimanche. Mais quoi qu'il en soit, je crois, de cette expérience personnelle qu'il a bien voulu raconter, qui est émouvante, qui est belle, qui est effrayante aussi, l'expérience de l'écriture de l'histoire se doit d'être fidèle à cette fragmentation du cours ordinaire des choses, justement, du cours quotidien de nos vies. Et on peut même dire cela à propos du récit que l'historien peut faire des événements collectifs, des émeutes populaires, même de la révolution de 1789 et des guerres, même si ça vous paraît surprenant. Rien ne sert de lisser ces événements. Rien ne sert de les raconter en continu, en passant de la cause à l'effet. Ils ne s'appréhendent que par des dispositifs de rupture, des singularités, des rapports décalés, des rapports de pouvoir qui concassent les gens du peuple sans toujours les convaincre ou en les convaincant et les enthousiasmant. Et en faire le récit, c'est savoir appréhender ces minuscules éclats pour les mettre en scène au cœur du collectif. Et là où je m'approprie, pas du tout comme une imitation, mais comme une imprégnation, la langue et la forme littéraire de Pascale Quignard, c'est dans sa nécessité de faire apparaître ses vertiges, ses pensées, ses lassitudes aussi et sa mélancolie profonde par ses minuscules cassures constantes, brisant même l'ordre du temps et des choses. Pascale Quignard, il affronte le fragment d'autrefois, un court récit, un conte, une citation, quelque chose qu'il a lu, une phrase, une histoire venue du monde antique, sans chercher à suivre une temporalité chronologique. Et bon, j'allais dire, il a bien de la chance, il n'est pas historien, donc il n'a pas à le faire, et ça doit être en effet une grande liberté. Mais sa quête et sa poursuite se logent vraiment ailleurs. Elle se loge dans sa pensée, dans son verbe, sur une espèce d'autre ligne de crête que peut être celle de l'historien, parce qu'il n'est pas chargé de dire ce qui fut. Je suis chargé, par passion, par métier, par discipline, le mot discipline veut bien dire ce qu'il veut dire, de dire ce qui fut. Et donc lui, il est sur une autre ligne de crête, littéraire et ravissante. Quand je dis ravissante, ça veut dire qu'on est capté, ravi, comme quand comme on ravit au sens du XVIe siècle, le rapt. Ravissante pour la lecture, car il capte le lecteur et par l'autorité de sa langue si surprenante et si violente à la fois, il y a énormément de violence dans les textes de Pascale Quignard, aussi complexe qu'évidente, il fait de cette ligne de crête une pensée qui pour moi est aussi philosophique que poétique. Bien sûr, On ne peut pas écrire, je vous le disais, l'histoire ainsi, mais on sait, par ailleurs, en tout cas moi je sais, et j'aimerais dire, combien il faudrait que l'histoire se brûle parfois au parfum de la littérature. Car l'histoire, ce n'est pas le récit de rectiligne qui va de l'origine, je reviendrai tout à l'heure à l'origine, l'origine chez Pascal Quignard, qui va de l'origine à nos jours, avec un sens de l'histoire sans faille. L'histoire des hommes et des femmes, elle balbutie, elle hoquette même, elle ne trouve pas ses mots. Elle se fracasse, elle improvise aussi, elle va de délices en stupeur, de fortune en infortune aussi, de bonheur en délabrement. Et il n'y a vraiment que les historiens académiques, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour en faire un récit où la rationalité serait reine, serait de mise, convenable, telle cause amenant obligatoirement tels effets. Walter Benjamin, Nietzsche, Foucault et tant d'autres ont vécu, philosophé, écrit l'histoire avec vraiment bien d'autres perspectives. Alors moi je crois que non, l'histoire ne va pas de l'aube au crépuscule, tout simplement. Non, les commencements du monde n'ont jamais été glorieux, ou plutôt oui, les commencements du monde n'ont jamais été glorieux, ni empreints de douces aurores. Oui, les origines sont blafardes et opaques. Mais de trouées en éclats, de brisures en effusions, de ferveur en sanglantes batailles, l'histoire se fabrique parce que chacun, devant le chemin à faire, celui de la vie, nous la faisons cette histoire, sans programme, parfois avec des maîtres ou des héros, souvent en improvisant son sens avec d'autres. Pascal Quignard, qui du passé se nourrit avec intensité, qui en est empli, qui en est lui aussi passionné, qui en est pénétré, s'est montré en écrivant que tout récit est effectivement de toute façon un fragment. Un fragment d'aujourd'hui comme un fragment d'hier. Et lorsque nous parlâmes, lui et moi, il y a si longtemps, en 1994, au moment où j'écrivais le livre dont je vous parlais tout à l'heure, nous nous rejoignions implicitement sur cela. Dans ce livre, j'avais le désir, à travers des bribes d'existence, des morceaux de phrases, vraiment, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça n'a pas été très bien réussi d'ailleurs, hein, je crois pas que c'était un très bon livre, enfin ça fait rien, j'ai fait ce que j'ai pu, de dresser en mots un tableau comme un peintre. C'était trop ambitieux. Mais cette expérience, j'ai trop aimé la tenter. Il y croyait lui aussi, mais je ne suis pas aussi douée que lui. Et finalement, je veux juste en dire une phrase qui fait partie de l'introduction pour que justement on comprenne bien ce que je voulais faire et comment ça peut se rapprocher à cette écriture fragmentée. J'avais écrit ces fragments d'archives, tous issus du XVIIIe siècle et des séries judiciaires. Ils font les récits du pire et de l'ordinaire dans l'enchevêtrement des mots. Il s'agit en fait de montrer à autrui comment fut autrui il y a un peu plus de 200 ans à travers des documents qui transmettent brutalement et naïvement des paroles en exil, des trajets extravagants ou inavouables. Fragments, certes, mais on peut passer aussi à un autre thème. Parce que Pascal Quignard, en outre, il livre dans son œuvre une quantité inouïe de formes littéraires. Il y a le roman, bien sûr, il en a écrit plusieurs. Il y a le conte, il y a l'anecdote, il y a ses traductions, il y a la légende, il y a le fait divers, il y a l'historiette, il y a aussi la citation, il y a la traduction, il y a la spéculation rhétorique, il y a l'aveu personnel, ce qui n'est pas rien, il y a l'assertion poétique et l'assertion littéraire. Et bien d'autres, j'en oublie certainement, des formes. Et certains ont parlé et parlent encore de préciosité à cet effet. Mais la préciosité, si on la connaît bien, au XVIIe siècle, justement, elle n'a jamais été cela. La préciosité n'était pas précieuse. Elle ne voulut être que la preuve, pour certaines femmes en tout cas, du monde, qu'elle pouvait accéder au discours. Et c'est tout à fait différent. Ridicule, les précieuses, non, je ne le crois pas du tout, mais pénétrées d'une évidence, d'un goût et d'un désir pour le partage des idées et des rêves, pour l'accès aux mots énoncés qu'on leur refusait, pour la discussion et le discours. Donc cette multiplicité de formes employées par l'écrivain laisse justement au lecteur, je trouve, une liberté saisissante. On peut choisir un Quignard ou un autre, mais c'est toujours Pascal Quignard. C'est toujours saisissant, c'est parfois intimidant, parce que l'effet de lecture est extrêmement fort, haussé justement par des assertions qui secoue le lecteur. Mais en même temps, le lecteur est libre de s'appuyer sur un morceau de citation, un morceau de phrase, un qui viendra de l'Antiquité, un autre qui viendra, par exemple, des historiettes de Talmand et Réau, écrites en 1659, un autre, enfin, je ne sais pas, ou simplement quelque chose regardé par la fenêtre, et puis il y aura un blanc, etc. Et en fait, ça intimide, d'une part, parce que c'est d'une érudition absolue, mais ça permet de s'appuyer sur une ou plusieurs de ces formes et de sauter de l'une à l'autre. Et moi, j'aime ça quand je lis, comme on traverse un gué, comme on traverse une rivière accidentée, ou bien, vous savez, ces espèces de chemins de mer, dans la mer, qui sont à marée basse, ridés par des vaguelettes de sable. Et je trouve que sauter justement de l'une à l'autre de ces formes pour parvenir sur des rives aussi neuves, littéralement, que celles qu'il nous propose, aussi neuves littérairement que philosophiquement, c'est tout de même plus que d'un charme fou, parce qu'on ne peut pas parler de charme à son propos, mais c'est une flagrance, je ne trouve pas, un éclatant, ça n'existe pas, un éclat très, très intense. Et finalement, c'est parcourir des lieux constamment, d'ailleurs en être essoufflé, la lecture de Pascal Quignard essouffle, comme l'histoire essouffle, en des lieux où la vie se meut, dans les souvenirs, les amours. La vie secrète, c'est l'histoire des amours, des abandons, et aussi dans des lieux où la vie se meurt, parce que, comme le dit Pascal Quignard, il n'y a aucune vérité durable, je le cite. Aucune vérité durable, c'est aussi cela l'histoire, et ce qu'on peut en découvrir. C'est un leurre de croire que l'histoire peut nous dire la vérité. Elle dit de la vérité, mais elle ne dit pas la vérité. Et ce n'est pas si simple. Yves Bonnefoy, le poète, un jour déclarait, je le cite, que la réalité, fille du désir, n'est pas une somme d'événements à décrire, avec plus ou moins de finesse, mais une communauté de présence. Quelle belle phrase! Je l'avais tout de suite recopiée. C'était une interview dans Le Monde, donc ce n'est pas dans son œuvre, ce n'est pas dans l'œuvre d'Yves Bonnefoy, mais j'avais trouvé que cette définition de la réalité, fille du désir, qui n'est pas une somme d'événements, mais une communauté de présence, résumait au fond tout ce qui était ma volonté d'être historienne. Restituer, donner, offrir, transmettre aux autres cette communauté de présence qui fut et qui nous accompagne parce que nous en sommes héritiers. Ainsi, je crois que l'historien se doit, en sautant de gué à gué, parce que je pense qu'il faut casser l'idée de la continuité, donner acte aux présences d'être à la fois plurielles et en communauté. Et au fond, la recherche en histoire, c'est un geste de plus qui recherche à relier les morts aux vivants, mais dans ces brisures, bien sûr, dans ces saccades. Et un geste de plus qui cherche à relier les morts aux vivants, je crois que c'est ce qu'essaie aussi de faire, enfin, je parle pour lui, peut-être que c'est pas ça qu'il veut faire, que cherche à faire Pascal Quignard, en indiquant justement les lieux de leur irréductible séparation. Parce que l'histoire, elle est irrégulière. Il faut en appréhender le cours, mais il faut accepter d'en dérégler ses raisonnements, de laisser l'irrégularité du temps être un champ d'analyse. Il est tant de formes de vie à raconter en histoire que faire apprendre de façon si épurée et lisse à nos enfants, c'est bien dommage. C'est bien l'intranquillité des âmes et des peuples qui fabriquent l'histoire. Et quoi de plus intranquille que les ouvrages de Pascal... Pardon. Excusez-moi. Et quoi de plus intranquille, en fait, que les ouvrages de Pascal Quignard, qui visite avec tant de ferveur, de pugnacité, d'évidence blanche et éclatante, qui visite, en fait, le désarroi de l'origine. Et je cite ces deux phrases. « Nous sommes venus d'une scène dont nous n'étions pas. » C'est dans le sexe et l'effroi. Et puis, « Je n'étais pas là la nuit où j'ai été conçue. » Dans la nuit sexuelle, dans l'avant-propos de la nuit sexuelle. Dans cette négation qui est là, je n'étais pas là la nuit où j'ai été conçue, dans cette négation instruite par la panique et l'effroi, Pascal Quignard crée des lieux, non pour nous réfugier ou fuir, mais pour accepter et marcher encore. Et cela donne à l'historienne que je suis le moyen intranquille, lui aussi, d'affronter les abîmes qu'offre l'histoire, ceux des événements, des défaites, des pensées, des existences des plus démunies. Alors, il y a aussi autre chose, un autre thème très fort dans l'œuvre de Pascal Quignard, c'est celle du déchirement et de l'effroi, justement, dont je parlais tout de suite, du tragique, le tragique, la déchirure, l'effroi, le manque. L'effroi, c'est un mot très souvent employé par l'écrivain. C'est un très beau mot, effroi, qui reste assez rare maintenant. On dit effrayé, mais le mot effroi, c'est un très beau mot même à prononcer. Et je crois qu'aussi c'est très intéressant d'avoir la sonorité de la langue. C'est bien de le lire tout haut, c'est agréable. Ça fait peur, parce que justement, peut-être à cause de cette phonétique particulière qu'il emploie. Et le titre d'un de ses livres, d'ailleurs, « Le sexe et l'effroi » en témoigne. Et dans toutes ces références, dans toutes ces assertions, dans la façon dont Pascal Quignard conduit sa plume, ou plutôt sa langue, avec persuasion et autorité, surgissent le tragique, l'abandon et aussi la perte. Et encore cette chose si belle, le dénuement. Alors, les choses sont dites ainsi. Le dramatique est constamment présent, autant que le chagrin. Autre mot très beau, et plus tellement, on dit un chagrin d'enfant, mais... Le chagrin, c'est le chagrin. Et dans la vitalité de sa langue, dans son assertion sidérante, il y a sûrement de la démesure, et il le sait. Mais il y a l'accablement, il y a la tragédie, mais aussi une puissance intacte, qui finit par donner de la vie et presque consoler le chagrin qu'il vient de poser dans ces lignes. Pourquoi ? Parce qu'à force de montrer les déchirures et tout ce qui s'effondre sous nos pas depuis toujours, ce qui se désamarre, ce qui est un adieu, se tient finalement une force inouïe, péremptoire, sous des mots sidérants, c'est-à-dire abrupts, flagrants, qu'on ne peut remplacer par aucun autre, tant ils sont à leur place, redoutablement, avec une redoutable acuité qui par moments laisse un peu pantois. Je donne un exemple encore. C'est une citation de La Barque silencieuse. Tout enfant est d'abord l'inconnu de la mise au monde confiée. Comment éviter ces phrases ? On ne peut pas éviter une phrase écrite comme celle-là. Elle ne peut que nous interroger profondément. Et pourquoi s'en déprendre ? Comment ne pas la prendre de plein fouet ? Comment ne pas l'accepter puisqu'elle est incontestable, même si terrifiante, abrupte et en fait si espérante et si tendre parfois ? Au milieu de ce vertige des mots, criant et éclatant, écrits les uns à côté des autres, les uns en dessous des autres, se lit de la vérité, comme aurait dit Michel Foucault. Et quelque chose de transparent qui n'enfonce pas vers l'obscurité, mais pose le lecteur au bord de la rive. Et au bord, pas de n'importe quelle rive, de la rive des émois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de lire du Pascal Quignard parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Et je crois que peut-être c'est difficile. En tout cas, il parle quelquefois de choses dont on ne sait rien. Moi, il y a évidemment des auteurs dont je ne sais rien, dont il parle souvent. Mais la façon dont il en parle me met en émoi, ce qui ne veut pas dire en émotion, complètement décomposée et tout, mais en émoi, ça veut dire ouverte à cette chose inouïe qui vient et qui vient se fracasser sur mon intelligence et sur mes émotions. Dans La Barque silencieuse, il écrit aussi « Celui qui vit reconduit sans fin la déchirure ». Reconduire sans fin la déchirure, ce pourrait être pour un historien ou une historienne une expression qu'il peut s'approprier et qu'éventuellement il ne peut admettre puisque l'histoire n'est justement pas une reconduction sans fin des événements. Mais ce serait, me semble-t-il, mal comprendre l'écrivain. Le sans fin n'indique pas une perspective linéaire, ou déterministe, mais une succession infinie de mouvements, de saccades, de vagues, de cascades en fait, parce que c'est quelqu'un qui écrit en cascade, qui tous, portent en eux l'inconnu, l'effroi, la déchirure. N'est-ce pas aussi ce sur quoi doit travailler l'historien ? Sur le déchiquettement des jours, sur les impalpables mais présents chagrins qui peuplent et fabriquent l'histoire. N'est-ce pas d'ailleurs Walter Benjamin qui écrit dans son texte sur le concept d'histoire, qui sont dans ces fragments d'ailleurs, je le cite, « L'image authentique du passé n'apparaît que dans un éclair, image qui ne surgit pas qui ne surgit que pour s'éclipser à jamais dès l'instant suivant. La vérité immobile ne correspond nullement à ce concept de la vérité en matière d'histoire. Fin de citation. Donc l'histoire est cassure et déchirure, elle est embourbement et beautés éphémères. Et le présent, en fait, a la difficulté de se reconnaître dans ces images uniques du passé, fût-elle fragmentée ou effrayante ou déchirante, ou déchirée. Et puis, il y a un autre thème auquel je suis très sensible dans les textes et les écrits de Pascal Quignard, pour avoir travaillé dernièrement sur ce sujet-là, et pas à cause de lui d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est la voix. La voix, celle qui manque, celle qu'on ne trouve pas, celle qu'on possède, celle de l'autre. Sur la voix, Pascal Quignard a toujours parlé ou écrit. Celle qui lui a manqué, à lui, celle de sa mère, qui cherchait ses mots et n'arrivait pas à faire venir un mot dans sa bouche, celle de l'aimer ou de l'aimer. Je le cite. « J'aime tout en toi, j'aime jusqu'au son de ta voix. Qu'est-ce pour toi que le son de ta voix ? Rien, pour moi, c'est ce qui me ranime. » Ou encore, le choix donné par l'écrivain à la littérature et à la parole vive, à la parole au caractère justement différé de la voix écrite qu'il regrette, et à la parole vive. Et paroles vives et voix qui sont centrales dans son travail. Le jeune garçon qui mue et se désespère de sa mue, l'aimé qui a une voix fragile et pourtant insistante. Et je lis encore un passage de La vie secrète. Sa voix était insidieuse et basse, toujours douce, posée, placide, nullement séductrice. Elle ouvrait simplement l'âme, argumentait ou plutôt entraînait en moi ses propres raisons, pénétrait en moi avec une évidence que j'étais incapable de contrecarrer. Il est possible que la naissance de l'amour soit l'obéissance à une voix. Ça, je trouve ça magnifique. À l'intonation d'une voix. La voix, c'est ce qui manque à l'histoire. Et mon rêve d'historienne fut non de la saisir ou de l'expliquer, mais au moins d'en entendre quelques bribes, harmoniques, silences ou sanglots. J'ai écrit sur les voix au XVIIIe siècle l'an dernier, les voix venant des classes populaires parce qu'elles sont exigeantes. Ceux qu'on appelle les sans-voix ont une voix que chacun défigure ou que tout le monde n'entend, que j'ai aimé poursuivre et j'ai aimé les poursuivre dans cette quête improbable. La voix est quelque chose qui m'accompagne constamment, même en lisant les archives du XVIIIe siècle, comme si je les entendais, je ne les entends pas, mais je les poursuis, et je les poursuis dans cette façon un peu désespérée dont Pascal Quignard en parle, puisque il fut jeune garçon, il mua, il fut par moments muet, et sa mère cherchait ses mots. Et puis, il y a un autre thème encore, c'est celui de l'absence, le « je n'étais pas là le jour où j'ai été conçu ». Cette absence, je veux dire, irrémédiable. Que dire d'autre, je n'étais pas là le jour où j'ai été conçu. Et cette question du sexe et de l'origine se renvoyant l'un à l'autre est une de celles qui me touche le plus, car elle m'interroge complètement. Fille, femme, amante, mère, j'ai parfois disparu sans espoir sous tant de vocables, de tâches et aussi d'espaces intérieurs à parcourir, seule. Oui, ici c'est la solitude du sexe, féminin pour le mien, qui cherche à jamais la cavité dont elle est issue et qui, toute sa vie ou presque, est enjointe de n'être point constamment offerte mais point constamment refusante. Même Jésus dit à Marie-Madeleine dans son immense pardon « Noli me tangere ». Et ces mots étranges comme ceux de l'Annonciation sont ceux aussi bien de l'offrande que de ceux qui refusent l'offrande. « Ne me touche pas, dit le Christ à Marie-Madeleine, ne me touche pas, dit la morale chrétienne à la femme, ne me touche pas, dit parfois l'amante, mais donnons-nous en entier. » C'est l'accablement sidérant d'après Pascal Quignard. Et la tâche impossible mais sublime, l'incomplétude, le manquant, comme le disait aussi Michel de Certeau dans Les possédés de Loudun, lorsqu'il cherchait la voix de ce qu'on appelait les sorcières, qui étaient possédées, et aussi dans son très beau livre L'écriture de l'histoire. Et être femme, être homme, c'est visiter l'abîme de soi, sans qu'aucun dieu ne vienne nous y aider. C'est se transformer en hurleur, comme les petits singes hurleurs. Et comprendre peut-être que même s'il n'y a aucune vérité durable, d'aucune façon, il y a toute la beauté du raconté, de la voix, de la parole et de l'écrit. Être une énigme pour soi, aimer l'autre comme énigme, c'est le chemin pour l'être humain. Dès lors, peut-être, l'historien sera historien. La nuit utérine est invisible, écrit Quignard dans La nuit sexuelle, Eh bien, dans le travail historien, existe la nuit de l'autre, la scène perdue, la scène muette, celle qui ne se retrouvera jamais. L'historien s'enfonce dans le monde, dans le manque. Il sait bien qu'il ne retrouvera rien, ou presque, de ce qui fut. Il sait que ces voix absentes sont inscrites en nous pour toujours. Et en fait, c'est cette absence-présence que veut déchiffrer, faire résonner, l'introduire au cœur du récit historique. Parce que, en fait, cette présence, elle est aussi actuelle qu'inactuelle. Mais que si un éclat de son actualité peut parvenir jusqu'à aujourd'hui, quelque chose de la lucidité nous sera compagnon, vraiment. Alors, bien entendu, la discipline historique demande un récit organisé. Mais certaines parutions actuelles montrent qu'elle réfléchit à présent sur ce qu'elle ne parvient pas à écrire. La dislocation, l'insertion de fragments en sa narration. Prenons un exemple. Les historiens du XVIIe siècle, en général, se sont toujours méfiés d'un auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Talmant de Réau, qui écrivit au XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ses historiettes. Dans la discipline historique, elles n'ont d'ailleurs été, excusez-moi, publiées qu'au début du XIXe siècle, ces historiettes. Et dans la discipline historique, quand on entre dans la discipline historique, il est absolument convenu que nous n'avons pas le droit de nous servir des historiettes de Talmant de Réau, parce que c'est vraiment une sous-littérature, et que, en plus, puisqu'il raconte des anecdotes, il a un côté Saint-Simon, mais en plus bas, si vous voulez, plus vulgaire, il raconte des anecdotes. Et donc, c'était vraiment l'interdit maximum. C'est-à-dire que trouver des informations dans Talmant de Réau, enfin, si on voulait passer sa thèse, il valait mieux pas. Et donc, ou alors, fallait le faire sans le dire, parce que de toute façon, personne ne s'en serait aperçu. D'ailleurs, c'est ce que fait quelquefois Pascal Quignard. Mais il le cite, il a le courage de le citer, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Parce qu'il y avait là-dedans quelque chose de vulgaire et de honteux à dire, une petite histoire, donc une historiette. Mais qu'était-ce donc que ces petites histoires ? Mais à présent, je crois qu'une autre perception du matériau se fait, et en relisant Pascal Quignard, j'ai vraiment souri. À plusieurs reprises, il cite une anecdote ou un fait venu des historiettes de Talmant de Réau, il n'a pas l'air d'en avoir honte, et il donne son nom, comme s'il faisait un peu la nique aux historiens qui n'osent pas le citer, et qui sont sûrement presque tous ou tous moins érudits que lui. Et encore une fois, Pascal Quignard ne se veut pas historien, mais sa manière envoûtante de laisser les langages parler en lui, de déplier les niveaux d'emboîtement, de récits différents, aux statuts différents, pour organiser une ligne dramatique, structurant des tensions et des désordres, me donne constamment de la force pour écrire de l'histoire. Ainsi, je suis soutenue par son œuvre pour ne jamais aller vers quelque chose d'annoncé. Jamais aller vers quelque chose d'annoncé. Travailler le XVIIIe siècle en voulant ignorer qu'il y a eu la révolution de 89, par exemple. Comme ça, je ne serais pas en train de dire « Ah, l'émeute de 1740 annonce 1789 ». Parce que, comme le disait Paul Ricoeur, vous, les historiens, comme vous savez toujours la fin de l'histoire, ben vous écrivez pas bien l'histoire. Alors, je suis soutenue par son œuvre pour ne jamais aller vers quelque chose d'annoncé et pour laisser aussi des silences qui vibrent de quelque chose que je pense être l'histoire. Mais je pense que je vais terminer parce que je ne veux pas vous ennuyer plus et qu'il faut finir toujours. Dans son dernier ouvrage, qui est paru en mars 2010 dans la collection Poésie chez Gallimard, Lycophron et Zétès, Pascal Quignard révèle un peu de son art en incluant de nombreux moments autobiographiques. Il insiste sur la façon dont Cassandre ne fut pas crue, sur le fait que l'être déprimé dit la vérité du réel et que personne ne le croit. Il dit encore que ceux qui survécurent des camps d'extermination provoquèrent de l'incrédulité et se turent. Le silence, le « ce qui ne fut pas cru » au moment où cela fut énoncé, font partie de la tâche réelle et poétique, de l'historien, je le crois ainsi. À un autre moment, expliquant comment il lui est venu de traduire l'Alexandra de Lycophron, Pascal Quignard écrit « Je descendais dans les siècles perdus. C'est ce qui m'emmène vers lui. Je descends dans les siècles perdus avec une toute petite différence. Je n'arrive pas à me convaincre qu'il soit tout à fait perdu. » Je vous remercie.